Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission dominicale entièrement dédiée au savoir-faire français, à l'excellence à la française. Saviez-vous que 80% de la production mondiale de lin est française et que grâce au savoir-faire des liniculteurs, c'est le nom donné à ceux qui cultivent le lin, eh bien ce lin on le retrouve dans le textile, certes, mais également dans l'automobile ou encore dans les billets de banque américains. Eh bien ce matin vous saurez tout sur cette filière lin dans notre émission intitulée « Le lin, une spécificité française ».
Sud Radio, c'est ça la France.
Comment expliquer que 80% de la production de lin est réalisée sur le sol français entre la Normandie et le nord de la France? Eh bien, on en parle tout de suite avec Alain Camille Léry, directeur de la communication de la Confédération européenne du lin. Bonjour Alain Camille Léry.
Bonjour.
Alors, c'est une organisation européenne qui existe depuis 1951, qui fédère 10 000 entreprises de 14 pays. Votre mission, c'est quoi? C'est de faire la promotion de cette plante et rappeler aux Français que c'est une plante, le lin.
Alors, c'est bien de commencer par le début, mais effectivement, c'est une plante et beaucoup de consommateurs, beaucoup de le grand public méconnaît l'origine de cette plante. Une plante qui est, comme vous l'avez dit, produite à 80% en Europe, c'est une de ses spécificités. Et la France est le premier producteur mondial de lin dans le monde.
Alors, comment se fait-il que l'essentiel de la production de lin se retrouve sous le drapeau tricolore?
C'est en fin de compte la conjonction de plusieurs paramètres. La terre, nous avons une bande côtière entre Caen et Amsterdam. Nous définissons assez schématiquement la surface de production du lin entre Caen et Amsterdam, sur une bande côtière. Et la bande côtière est importante parce que nous avons besoin de pluviosité importante.
Donc il y a le climat, il y a la terre.
Un climat, la terre et un savoir-faire, bien évidemment, puisque c'est une fibre de patrimoine, le lin. C'est une fibre qui est associée à notre histoire européenne depuis toujours.
Quand vous parlez de cette bande côtière, donc c'est parmi les autres grands pays, donc il y a les Pays-Bas, j'imagine.
Alors, il y a trois pays essentiellement. Il y a la France, la Belgique et les Pays-Bas, d'où Caen à Amsterdam, avec une répartition majoritaire pour la France en termes de production.
Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce lin français? Comment est-ce qu'on explique le succès de cette fibre qui ne date pas d'hier?
Alors, c'est une fibre qui, comme je le disais, est ancienne. C'est la plus vieille fibre textile au monde, puisqu'on a des traces de lin datées depuis 38 000 ans. C'est une fibre qui est si proche de nos sociétés qu'elle en a influencé notre langage et que certains mots que nous utilisons au quotidien viennent du mot lin.
Lesquels, par exemple?
Je pense tout simplement à des mots comme linge.
Ah ouais, c'est vrai.
Comme lingerie. Et si on va au-delà, et on pourrait en passer toute l'émission à parler d'étymologie, mais si je vais au-delà, on peut parler aussi du mot ligne. Le lin a une
particularité. Qui viendrait de lin, le mot ligne?
Oui, le lin a une particularité importante, qui est une fibre longue par rapport au coton, qui est une fibre courte. Alors, je vous passerai les détails techniques en termes d'approche textile des choses, mais en termes d'étymologie, les populations, les sociétés ont associé la longueur de la fibre au mot ligne, par exemple. Quand on visualise le mot ligne, on voit bien ce trait discontinu.
On apprend plutôt des choses. Merci, Maître Camilleri. Il y a tout ça, effectivement, on n'y pense pas. Donc, tout ce vocabulaire qui fait partie de notre quotidien, qui a été notamment inspiré du lin.
Inspiré du lin, avec cette importance pour nous de préciser que c'est une plante européenne. On a en tête des utilisations de lin anciennes, très anciennes, qui sont par exemple les textiles qui entouraient les momies égyptiennes.
Les Égyptiens momifiaient leurs pharaons avec le lin.
Ouais. Exactement. Et le lin a été présent. Si on parle d'Europe uniquement, partout en Europe. Et puis, au fil du temps, la production s'est recentrée en termes de qualité sur les zones dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la Normandie, les Hauts-de-France, la Belgique, les Pays-Bas. Et aujourd'hui, la qualité prime. Et nous avons...
En quoi, justement, il est de qualité, ce lin? J'imagine qu'il a peut-être des qualités intrinsèques ou... ce qui expliquerait aussi la production sur le sol français. Quand on parle de spécificité française, qu'est-ce qu'il a de plus que le lin récolté dans d'autres pays?
Ce qu'on peut peut-être, on peut résumer sa prédominance par rapport aux autres pays qui en font, hein, puisque si on fait 80%, il y a bien 20% qui sont faits ailleurs. Et la prédominance du lin est résumée en termes de qualité, et en termes de qualité constante. Autre analogie à faire quand on parle du lin, c'est que nous associons après chaque récolte, nous associons des lots de différentes régions, de différents terroirs. C'est comme le champagne, c'est comme le cognac.
Il y a une vraie traçabilité. Tout est classé dans l'univers du lin. Vous êtes capable de savoir de quel champ il provient, de quelle année. Chaque ballot en fait, de lin est classé.
Exactement, exactement. Et c'est une raison, une des qualités du lin pour assurer son homogénéité et sa qualité constante au fil des ans. C'est un ensemble de qualités que nous avons résumé autour d'un label qui s'appelle European Flax et qui est à la fois un label de traçabilité et un label de qualité de la fibre européenne.
C'est grâce à justement cette qualité de cette fibre de lin que finalement elle a réussi à résister aux fibres de coton, aux fibres synthétiques qui sont apparues.
Alors l'histoire textile elle est mouvementée.
Très mouvementée.
Le lin a été pendant des siècles présent partout parce que c'était une fibre de proximité. Donc les paysans cultivaient du lin, filaient et tissaient et s'habillaient avec leur propre production. Et puis sont apparues les fibres synthétiques dans les années 60. Aujourd'hui, le lin retrouve un intérêt à la fois auprès des industriels et du grand public, parce que c'est une fibre verte, c'est une fibre soutenable, c'est une fibre durable, c'est une fibre qui n'a pas besoin d'eau.
Qui consomme très peu d'eau, oui. Voilà.
Qui n'a pas besoin d'irrigation, ce qui est tout à fait étonnant par rapport à d'autres fibres.
Contrairement au coton.
Exactement. Donc pas d'irrigation, très peu de produits chimiques, à la fois dans sa végétation, dans sa culture, mais également dans sa transformation, puisque lorsque l'on obtient une fibre de lin, c'est uniquement par un processus mécanique et pas par un processus chimique.
Et ce lin, il s'exporte très bien. Il s'exporte en Amérique du Sud, en Chine, qui est le premier acheteur mondial.
Exactement. Avec un phénomène qui est en train de se passer, qui est très intéressant pour nous, c'est que ces pays qui sont des pays acheteurs de fibres sont également des pays qui développent leur propre consommation locale. Donc on n'est pas uniquement en train d'exporter des fibres, on exporte des fibres qui sont consommées localement. Avec un marché propre chinois, un marché propre indien, ce qui est tout à fait intéressant et qui se développe de plus en plus.
Alors justement, quels sont les débouchés du lin ? On pense souvent au textile, mais il n'y a pas que le textile.
Non, il n'y a pas que le textile. 60% des débouchés du lin vont vers la mode. 30% vont vers l'art de vivre. On a connu un succès important avec ce que nous appelons et ce que le grand public appelle maintenant le lin lavé pour tout ce qui est l'habit du lit et de la table, avec un gros avantage, c'est que ce lin lavé ne se repasse plus. C'est un gros avantage. Et son côté pratique a séduit de plus en plus le consommateur.
Et le lin séduit également le secteur automobile.
Oui, sous une autre forme. Sous une forme que nous qualifions de matériau composite, du lin composite, lin technique. C'est-à-dire une association composite, c'est simple. Hein, c'est l'association entre une fibre et une résine qui donne lieu à des nouvelles générations de matériaux qui sont utilisés à la fois dans l'automobile, par exemple, mais également dans la création de mobilier, dans le design.
Ouais, parce que c'est une fibre qui est très légère et en même temps
très résistante.
Donc finalement, on peut dire que le lin est... Tout est bon dans le lin.
Tout est bon dans le lin tout est utilisé dans le lin.
La graine de lin, qu'est-ce qu'on utilise d'autre ?
Alors, la graine de lin, il faut faire peut-être juste une petite différence entre le lin fibre textile et le lin oléagineux.
C'est un gros mot.
Voilà. C'est deux grandes familles de variétés. Oléagineux, ça veut dire simplement que ce lin-là est plus destiné à l'alimentation. Ce qui n'est pas le cas du lin fibre textile.
Mais il y a quand même la graine qui se mange, la graine qui est utilisée sinon effectivement pour produire de l'huile.
Tout à fait.
La fibre dans ce qu'on a dit, dans toutes sortes de débouchés.
Dans toutes sortes de débouchés. Avec une actualité intéressante, c'est que spontanément, le lin est associé à l'été. C'est une fibre qui correspond à une fibre légère, une fibre qui respire et qui est un bon support pour évacuer la transpiration. Mais de plus en plus, et on parlait depuis tout à l'heure, en fin de compte, de transmission, hein, d'héritage au niveau du lin, c'est aussi une fibre d'innovation. Tradition et innovation, c'est les deux qualificatifs qui pourraient le plus qualifier le lin aujourd'hui.
Merci Alain Camilleri, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication de la Confédération européenne du lin. Alors partir à la découverte du lin, c'est également rencontrer ceux qui le cultivent. On en parle dans un instant sur Sud Radio, dans notre émission consacrée au lin, une spécificité française.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée aujourd'hui au lin, une spécificité française. Il est temps de découvrir le savoir-faire des liniculteurs, ceux qui cultivent le lin, qui le trient, le récoltent, le filent. Qui sont ces maîtres du lin ?
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Bertrand Gomard.
Bonjour.
Alors vous êtes liniculteur en Normandie.
Tout à fait.
Alors vous produisez combien de tonnes de lin par an, pour qu'on ait une petite idée ?
Personnellement, je produis une centaine de tonnes de lin par an, ce qui représente une vingtaine d'hectares, ce qui est une moyenne, on va dire, par agriculteur producteur de lin.
Vous êtes nombreux à faire ce métier en France ?
Il y a environ entre 5 et 6 000 producteurs de lin en France, principalement dans la moitié nord de la France, au nord de Paris, on va dire, entre Caen et Dunkerque.
On dit qu'on ne s'improvise pas liniculteur, que ça demande plus de technicité, de main-d'œuvre que les autres cultures céréalières. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, tout à fait, complètement. On ne peut pas s'improviser producteur de lin. Il faut un certain savoir-faire que l'on hérite souvent de nos parents et grands-parents. Ça s'apprend beaucoup dans les champs, en cultivant, et d'année en année, on en apprend toujours un peu plus, puisque le lin est une culture exigeante, capricieuse, risquée, il faut le dire.
On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise.
On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Elle a un cycle de végétation qui est relativement court, puisque c'est 3 mois.
Alors expliquez-nous justement quelles sont les grandes étapes de la culture du lin. On sème à quelle période ? On l'arrache à quel moment ?
Alors, vous avez employé le bon terme, arracher, déjà, c'est bien.
Oui, on ne le fauche pas, c'est ça?
On ne le fauche pas, grâce plutôt à sa fibre résistante qu'on veut préserver, puisqu'elle commence dès le pied du lin. Alors, on le sème deuxième moitié de mars jusqu'au début avril, dans des terres profondes, limoneuses, riches, je vous disais, entre Caen et Dunkerque. La végétation donc dure une centaine de jours. Le lin pousse en moyenne de 1 cm par jour. Alors, au début, ça pousse très peu.
Ah, on vous a perdu.
Et 5 à 6 cm dans la journée. Et puis nous arrivons début juin à un instant assez joli, puisque c'est la floraison.
Qui dure que quelques jours, c'est ça ?
La floraison dure une quinzaine de jours, mais chaque fleur ne vit qu'une journée, même pas, quelques heures.
C'est presque poétique.
Ah, c'est complètement poétique. C'est la fleur est éphémère. Elle s'ouvre le matin avec la lumière du jour et l'après-midi, les pétales tombent et le lendemain, ce sont d'autres fleurs qui apparaissent.
Et quel est le moment le plus important de la culture ?
Alors, j'allais dire tous les moments sont importants parce que le semis est délicat. Il doit se faire dans des terres suffisamment réchauffées, sèches bien sûr, avec du beau temps derrière pour permettre une bonne germination. Le mois de juin est important puisque c'est le mois de la floraison. La fibre est installée dans la plante et à ce moment-là, on a besoin de beau temps puisqu'on craint de fortes pluies qui peuvent faire verser le lin. Heureusement, on arrive à passer à côté quand même assez souvent. Et puis l'autre moment important, c'est l'arrachage. L'arrachage, il a lieu aux alentours du 14 juillet, on va dire, c'est une date qu'on retient facilement, lorsque le lin, lorsqu'il est défolié, il a perdu la majeure partie de ses petites feuilles, ça veut dire que la fibre est bien solidifiée à ce moment-là. Donc on l'arrache, on le met à terre, il fane pendant 2-3 jours, et ensuite va s'installer le processus du rouissage.
Alors justement, là vous êtes en train de nous expliquer comment est-ce qu'on transforme ce lin en fibre de lin, c'est ça ?
Exactement, mais ça se fait naturellement, hein, complètement naturellement.
Alors, expliquez-nous ce que c'est que le rouissage.
Alors le rouissage, c'est l'action de la pluie et du soleil sur le lin qui est à terre, qui est resté dans les champs.
On sent à quel point la météo elle est importante, hein.
Complètement. Et c'est pour ça qu'on le fait au nord de la France, puisqu'on a besoin d'alternance de pluie et de soleil.
Donc, alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de culture du lin dans le sud de la France, effectivement.
Voilà, il fait un petit peu trop chaud et un peu trop sec.
donc le rissage, donc on laisse poser au sol, c'est ça le lin ?
Oui, on laisse poser au sol. Donc en fait, ce sont l'humidité et la chaleur vont faire que certains micro-organismes vont détruire les ciments qui lient la fibre au bois. Et de cette manière, ensuite, quand on aura récolté le lin, on pourra séparer la fibre du bois beaucoup plus facilement.
En fait, on laisse moisir au sol.
C'est un peu ça, c'est une sorte de pourriture. Alors, il ne faut pas aller trop loin, parce que les micro-organismes, si on laisse le lin trop longtemps au sol, les micro-organismes peuvent s'attaquer à la fibre. Et ce que l'on ne veut pas, on veut la préserver. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir observer. Donc, on passe beaucoup de temps dans nos champs de lin à les observer. Et quand on estime que le bois se sépare aisément de la tige, de la fibre, on décide de le récolter. Donc ça se fait souvent à la deuxième quinzaine d'août, à peu près. Donc ça veut dire qu'il reste 6 semaines à 2 mois à terre, en moyenne, sous les effets de la météo. Donc on ne dort pas tous les jours bien, mais en général, ça se passe bien.
Mais en vous écoutant, c'est vrai qu'on prend conscience à quel point ça demande beaucoup de technique, beaucoup de rigueur, beaucoup de savoir-faire. Oui. Il faut respecter, donc vous le dites souvent, les variations de météorologiques. S'il y a trop d'eau, s'il y a trop de soleil, récolte, ça peut ruiner une récolte.
Complètement. Donc il faut savoir être très patient, parce qu'il ne faut pas intervenir trop tôt. Mais par contre, quand c'est bon, il faut se dépêcher. Donc là, évidemment, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. Il faut vraiment se dépêcher à rentrer le lin sec, puisque lorsqu'il est humide, il se conserve pas bien. Donc on enroule du lin sec, on l'enroule comme un tapis, hein, c'est pareil. Hein. On l'enroule comme ça, et puis on peut conserver plusieurs mois ensuite en stockage, parce qu'on l'a rentré sec.
Alors Alain Camilleri nous expliquait que chaque ballot de lin est classé par champ, par année. Ça c'est très important, vous êtes capable de tracer tous vos ballots de lin.
Oui, complètement. Depuis le début, hein, dès qu'on sème du lin, on écrit évidemment tout ce qu'on fait. On va seulement avoir une très très bonne traçabilité de notre lin européen, puisque Alain Camilleri vous l'a certainement dit, mais on produit le meilleur lin du monde, donc on veut absolument l'identifier, hein, jusqu'au bout de la chaîne, et le valoriser comme tel. Moi, dans mes champs, quand je vois qu'il y a des différences d'une parcelle à une autre ou d'un bout de champ à un autre bout de champ, je fais des lots, j'identifie mon lin parce qu'il peut y avoir des qualités différentes. Selon la couleur, l'homogénéité de la parcelle, on essaye d'avoir des lots homogènes. Et le filateur, derrière, il veut travailler des lins homogènes. Et l'homogénéité est un maître mot dans la culture du lin.
Eh bien, à vous écouter, Bertrand Gomard, on comprend pourquoi est-ce qu'on fait le meilleur lin au monde. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait part de votre quotidien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Ah là là, l'écouter, hein, Alain Camilleri, c'est impressionnant, hein, de voir tout ce savoir-faire, toute cette importance. En fait, on le surveille comme on surveillerait du lait sur le feu, le lin.
Ah oui, c'est de l'amour constant. Et vous aviez un expert en ligne.
Ça fait plaisir en plus, on l'a bien compris, hein, le lin européen n'est pas délocalisable, on est fiers, il se fait dans notre pays pour l'essentiel et finalement tout est bien dans le lin. Quoi.
Tout est bien dans le lin et en ce moment on a des campagnes de promotion du lin à Paris, à Milan, à Londres. Voilà, je donne rendez-vous aux consommateurs qui verront sur les boutiques le I love linen, j'aime le lin ou amo il lin.
Merci Alain Camilleri pour votre éclairage et votre expertise.
Merci.
Et si nous partions nous balader dans les coulisses des entreprises françaises ?
Sud Radio, c'est ça la France, le tourisme des savoir-faire avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors on va se balader où cette semaine ?
Eh bien vous me donnez l'occasion de parler d'une belle région réputée pour la culture de son lin, mais aussi pour tout son savoir-faire autour du textile. C'est la Picardie, qui fait partie aujourd'hui des Hauts-de-France. Et c'est la deuxième région textile de l'Hexagone, et elle possède un très bel héritage dans ce domaine. Et donc plus qu'une balade, je propose carrément un voyage sur la route du textile.
Alors on commence par où ?
Eh bien on peut commencer par Hardivillers, c'est un petit village de l'Oise au cœur du Vexin. Là-bas, vous avez la maison du Sergé. C'est un bâtiment qui est typique du travail de la serge, avec un atelier sur rue, une maison d'habitation et un jardin.
Alors, il faut expliquer que la serge, c'est une façon particulière de tisser le fil sur une trame, donc pour donner de la souplesse au tissu. Hein.
Exactement, d'ailleurs le meilleur exemple, c'est la toile du jean. On continue notre parcours en direction de Flexicourt, sur les bords de la Somme. On est entre Abbeville et Amiens, c'est le pays du jute cette fois-ci. Et derrière, il y a une histoire industrielle vraiment passionnante qui a même inspiré Zola.
On peut peut-être rappeler également ce qu'est le jute. Hein.
Ouais, c'est une fibre naturelle très longue comme le lin, mais elle ressemble beaucoup plus au chanvre, sauf qu'elle est beaucoup moins onéreuse. Et trois frères, Pierre, Aimable et François Saint, ont flairé le bon filon au milieu du 19e.
C'est le cas de le dire, Thibault. Ouais,
nos industriels ont été bien inspirés. Ils ont installé dans la région le premier atelier de tissage mécanique de jute en France. Ils ont eu jusqu'à 17 usines, avec 12 000 ouvriers quand même. Et c'est un patrimoine textile qu'on peut découvrir grâce à des visites organisées qui sont très bien faites. Il y a les anciennes usines Saint, bien entendu, mais on peut aussi voir les maisons le long de la Somme qui témoignent d'un mode de vie particulier, celui des ouvriers textiles du 19e.
Alors, comme on est juste à côté d'Amiens, j'imagine qu'on va y faire un petit tour.
Ouais, bah Amiens, c'est la ville du drap, grâce aux moutons Picard et aux œufs de la Somme. Mais c'est aussi la capitale du velours, grâce à la manufacture Cossera, qu'on peut trouver dans le quartier de Montières. Malheureusement, elle n'existe plus, mais vous pouvez encore voir ces magnifiques bâtiments en briques rouges qui sont typiques, vous savez, de l'architecture industrielle.
Allez, une petite dernière étape pour finir cette route du textile picarde.
Allez, rapidement, on finit du côté de Saint-Quentin, à Fresnoy-le-Grand exactement, ça c'est dans l'Aisne. Là-bas, il y a un lieu qu'il ne faut surtout pas manquer, c'est la maison du textile. C'est un vrai petit musée vivant qui a été aménagé dans un ancien atelier. Alors là-bas, on a toute l'aventure du textile dans la région, par exemple l'histoire du lin, l'histoire du tissage du lin depuis le 16e. On apprend aussi comment le Cachemire est arrivé grâce à Napoléon, qu'il avait découvert pendant la campagne d'Égypte. Bah, y a aussi une maison de tisserand des années 30 qui a été reconstituée. Et pour finir, les enfants ne sont pas oubliés parce que pour eux, il y a des ateliers créatifs et un parcours de visite avec des jeux et des énigmes. Donc allez-y en famille, la maison du textile à Fresnoy-le-Grand pour finir votre voyage sur la route du textile.
Merci beaucoup Thibault, j'espère qu'effectivement il vous a donné envie d'aller visiter le nord de la France, enfin les Hauts-de-France, attention, les Hauts-de-France. Merci à tous, bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de C'est ça la France.